Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
22h35, Walid Acharchour est là, Florent Gautreau est là, pas de Ligue 1 ce soir, vous le savez, nous sommes le 5 mai, journée sans match, systématiquement en hommage.
Tu vois, on parlait de
Furiani,
on parlait de culture foot tout à l'heure, et je trouve que la lutte qui a été celle des Corses pour imposer, enfin pour tenter de faire imposer cette mesure a été une bonne chose, parce que puisqu'on parlait de culture foot dans les
là,
pays
sur le chat YouTube, il y a plein de gens qui disent mais pourquoi il y a pas de Ligue 1, je comprends pas.
Non, mais t'as raison, de le dire. 5 mai 92, il faut rappeler, il y a plein de nos confrères et plein de gens qui il y a eu 18 morts de mémoire et des centaines de blessés.
Une tribune qui s'est effondrée, match Bastia Marseille de Coupe de France.
Et tout ça pour des raisons mercantiles, hein, puisque on rappelle que c'était pas pour vendre plus de places et que les tribunes provisoires n'étaient pas suffisamment arrimées. Bon.
En gros, mais, il y a 3000 personnes dans une tribune de 1005, quoi.
Ouais, c'était très terrible. Et bon, on a vécu ça tous. Par écran interposé, on se souvient notamment de Jean-Michel Larquet qui était sur place, bien qui sûr. Avait fait un job
qui
incroyable.
Qui était à la tribune et qui était à deux rangs de l'effondrement.
Et qui est descendu après sur le terrain et donc il avait fait vivre cette soirée un peu terrible, enfin pas un peu terrible, cette soirée tragique. Et il faut rappeler ça, t'as raison d'abord de dire, un, qu'il y a eu ce qui s'est passé, deux, puisqu'on parlait de culture foot, de dire que dans un pays comme la France, bah, je trouve que c'est très fort et très bien d'avoir accédé à la demande des Corses, qu'il n'y ait pas de match pro, hein, je crois, parce que c'était pro, ouais. Pas de match pro le 5 mai. C'est quand même un truc très, 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 très fort, mais qui n'a pas été gagné tout de suite.
Non, hein.
C'était une lutte longue et c'est une très bonne chose, puisqu'on parlait de culture foot, de souvenirs, de mémoire, eh ben, ça fait partie des choses tragiques, terribles qui ont eu lieu en 92.
Point Formule 1, Jean-Luc, le Grand Prix de Miami. Et là, on commence à rentrer dans les poteaux, là, je sais pas ce qui s'est passé là.
Eh oui, 22e tour, hein, donc c'est pas une course facile. Hein. Je l'avais signalé pour Verstappen, qui n'avait que 2 secondes 6 d'avance tout à l'heure sur le deuxième. Et bien là, il est sorti de la piste et il a emmené justement un plot qui délimite la piste. On a cru même que ça pouvait endommager sa moustache avant gauche, ça n'a pas été le cas. Mais le plot est au milieu de la piste maintenant, ça veut dire qu'il est...
C'est un élément de la voiture. Hein.
Bon. La moustache, c'est l'aileron avant, si tu veux, l'aileron avant gauche, effectivement. Alors, on est entré dans la valse des arrêts au stand, je l'ai dit tout à l'heure, et Charles Leclerc s'est donc arrêté. Charles était en 3e position à Virtual Safety Car à l'instant. Ça veut dire qu'on va figer les positions, donc, et conserver les écarts. Les pilotes doivent lever le pied, naturellement, mais les écarts ne seront pas réduits. Hein. C'est uniquement quand il y a un safety car qu'on regroupe tout le monde derrière la voiture de sécurité. Là, voilà, les pilotes cassent la vitesse, mais on conserve l'écart probablement pour aller chercher ce plot, voilà, qui est au milieu de la piste.
Il est bien, il a mis ses warnings.
Oui. Donc pour le moment, je répète les positions. Voilà, les courageux commissaires, faut toujours leur rendre hommage parce que c'est pas évident de sauter sur la piste comme ça quand il y a des monoplaces. Voilà, on va
ramasser tous les débris. Surtout si un mec oublie de ralentir.
Oui, surtout s'il y en a un qui oublie de ralentir. Mais ça, c'est une très bonne solution qui est venue des États-Unis, hein, parce que pendant longtemps, même en Formule 1, on protégeait ça par des drapeaux jaunes et les pilotes levaient ou ne levaient pas le pied. Donc on a vu parfois des situations un petit peu rocambolesques. Donc Verstappen est au commandement. Là, ça va être très rapide. Hein, le virtuel safety car. Piastri est deuxième à 4 secondes. 6 maintenant, Sainz est 3e à 7 secondes seulement, je dirais, hein, au bout de 23 tours, donc c'est pas très facile pour Verstappen, je me répète. Norris est 4e avec l'autre McLaren. Charles Leclerc qui est le seul à s'être arrêté, il a fait une très belle opération en s'arrêtant très tôt. Alors évidemment, le Virtual Safety Car ne sert pas ses intérêts parce qu'il était l'homme le plus rapide en piste. Là, il vient d'établir le meilleur tour en piste en 1:32.113 à l'instant. Lewis Hamilton est 6e et voilà, on arrête Verstappen. Très bonne réaction de la part de Red Bull, on s'y attendait, parce qu'évidemment l'arrêt au stand va durer exactement 21 secondes comme pour les autres, seulement ça coûte moins cher puisque les monoplaces sont à un rythme beaucoup plus calme pour le moment, donc en fait dans la pratique ça va lui coûter beaucoup moins de temps par rapport à ses adversaires, il va économiser au moins 5 ou 6 secondes, très bien joué de la part de Red Bull pour assurer donc la position de
Verstappen. J'hallucine la vitesse des...
Ouais. 1 seconde 9 au stand.
C'est sûr que la dernière fois que tu as Twingo chez ton garagiste en bas de chez toi, là, elle est restée la journée.
Ça prend un peu plus de temps.
Je le salue, mon garagiste, parce qu'il est rapide par rapport à certains. Et là, 1 seconde 9.
Non, mais là, c'était la bonne réaction. Mais une nouvelle fois, hein, Verstappen n'est pas aussi à l'aise qu'on peut le croire, pas aussi à l'aise qu'il l'a été jusque-là. Il est vraiment obligé de se défoncer. Puis on le voit avec le rythme adopté par Sergio Pérez, parce que Pérez, lui, a un petit peu le mal. Il s'est arrêté beaucoup plus tôt pour changer de pneumatique. Et il n'est pour le moment que 9e, Sergio Pérez.
Très bien, pendant ce temps-là, partout, score final entre la Roma et la Juve en Italie, et puis toujours 0-0 entre Famalicão et Benfica. Pour l'instant, Benfica ne gagne pas, donc le Sporting est virtuellement champion du Portugal. On a Alexandre au 32-16 qui voulait rebondir sur l'avis de Walid, là, sur l'arbitrage. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir les gars, merci de me recevoir. C'est la deuxième fois que je passe dans l'after, rien depuis 5 ans, et supporter de Valenciennes, mais un vrai, hein, un vrai supporter de Valenciennes, pas comme celui que vous avez reçu le mois dernier.
Je me souviens pas.
T'as des comptes à régler.
Bah, j'ai des comptes à régler avec le fait que vous prenez des gens qui se réclament supporters de Valenciennes qui ne le sont pas. Moi, je suis né à Valenciennes, en région valencienne, j'ai toujours vécu.
T'as fait partie de ceux qui ont chanté après la descente le national, c'est pas si mal. Le national, c'est pas si mal.
On réagit mieux face à ça que les supporters de l'Estac, voilà.
Bon. Bon, sur l'arbitrage, tu voulais dire quoi?
Alors, sur l'arbitrage, je voulais dire. Le vrai problème, c'est pas tant l'incompétence des arbitres français que leur origine à cette incompétence. Et moi, je pense que l'incompétence des arbitres français, elle est à chercher évidemment du côté des instances, Ligue comme Fédé. Et un premier indice qui va dans ce sens selon moi, c'est le fait que Monsieur Turpin, Monsieur Le Texier, quand ils sont en Coupe d'Europe, ils sont meilleurs que ça. Je pense qu'à l'Euro, ils seront meilleurs que ce qu'on voit en Ligue 1. Pourquoi? Bah parce que c'est pas l'UEFA qui va les décoter, c'est pas l'UEFA qui va les mal noter. Et donc, forcément, ils arbitrent mieux que ça, même avec la VAR. Et moi, je pense que le problème de l'arbitrage en France, c'est le principe du poisson qui pourrit par la tête. Le problème, il a cherché de ce côté-là.
Bah, écoute, je pense qu'on est tous d'accord. Voilà. Après, tout à l'heure, Flo pointait le niveau de certains. Bon, il y a forcément des différences de niveau. Même si demain, il y a un encadrement qui est beaucoup plus fluide et que les décisions aberrantes, comme le décrivait Walid, là, de notation entre VAR et arbitre central changent, ça ne changera pas le niveau de certains, malheureusement.
Non mais il n'est pas impossible que dans le management, dans le recrutement, on rate aussi des arbitres qui soient meilleurs et qui sont pas montés. Voilà, il faut c'est quand même dingue. Honnêtement, Rudy Buquet, c'est pas la première fois qu'il a des soucis sur.
Alors, rappelons que tous les ans, il y a des arbitres qui redescendent.
Hein. Ouais, bien sûr. Mais non, franchement, il y aurait beaucoup de choses à dire, sans doute sur la façon dont on, sur les montées descentes des arbitres, mais aussi sur la façon dont on les forme et surtout sur. Le côté un peu intouchable de certains qui, une fois en Ligue 1, ont une attitude qui n'est pas la bonne attitude. Donc, c'est un peu tout ça qu'il faut réussir à changer. Bon, ça se change pas comme ça, ça se modifie pas rapidement. Mais en fait, le VAR a au moins eu ce mérite, terrible mérite, que de montrer aussi de révéler les failles encore un peu plus grandes des arbitres français. C'est ça qui est terrible, parce qu'il y en a beaucoup qui évidemment ont été déjugés par le VAR parce que ils avaient fait des erreurs, d'autres qui n'osent plus prendre de décisions. Alors là, c'est la majorité même des arbitres avec le VAR en craignant d'être déjugés, et puis d'autres qui eux sont de bons arbitres, mais parce qu'ils ont un statut un peu d'intouchable en France, sont moins bons en Ligue 1 qu'en Ligue des Champions. Donc à la fin, on arrive quand même sur un champ de ruines, mais un champ de mines, quoi.
Allez, enchaînons avec le haut du classement, parce que, bon, évidemment, c'est parcellaire, parce qu'il y a des matchs qui ne se sont pas joués. Nice compte un match de retard, Lens compte un match de retard, Marseille compte un match de retard, Lille compte un match de retard. Un mot sur Brest, les gars, parce que Brest, une nouvelle fois, n'a pas gagné, là, face à Lens. Alors, vous allez dire, ils sortaient de ce match de feu à Rennes, hein, où il gagne 5-4. Mais bon, c'est sur les 4 derniers matchs, il y a une seule victoire. Et en fait, le 0-0 d'hier contre Nantes, il confirme quand même un glissement, quoi. Alors, je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, après hier, ils ont été, c'est vrai, je vais pas dire malmenés, parce que la possession, elle était brestoise, mais on a senti quand même que Nantes pouvait ouvrir le score, à l'image de Dablin qui encore une fois était le plus dangereux côté nantais, mais qui a mangé un petit peu, qui a mangé la feuille de match et qui aurait pu ouvrir le score. Mais c'est surtout, on se rend compte que la présence ou non de Pierre Lesmelou, elle est indispensable à cette équipe de Brest. Hier, il sort encore très tôt et ça change quand même la physionomie de la rencontre. Après, il va falloir voir ce que va faire Lille, notamment contre Lyon demain soir. Mm-hmm. Ils ont un calendrier où je crois qu'ils jouent Reims et Toulouse sur les deux derniers matchs, donc ça reste quand même un calendrier abordable. Toulouse vient de perdre contre Montpellier et la saison elle est terminée, et Reims avec ce qui se passe en ce moment, je suis pas sûr qu'ils soient compétitifs sur les trois derniers matchs. Donc il y a quand même la possibilité d'aller encore chercher cette troisième place. Ils sont devant à 2 points, Mais c'est vrai que ouais, c'est un peu moins. C'est...
Si Lille prend la main demain, ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Quoi.
Oui, après, il faut que Lille batte Lyon à la maison. C'est totalement réalisable. Il faudra voir aussi le calendrier de Lille, je ne l'ai pas. Mais en tout cas. On sent que oui, sur ce match contre Nantes, j'ai senti un peu de fatigue, moins de créativité, avec un et surtout un Lesmelou qui est au milieu de terrain quand il est pas là, c'est un peu plus compliqué. Ils vont à Nantes, Lille et ils reçoivent Nice, donc c'est un peu plus compliqué quand même.
Oui, exactement.
Lyon, Lille, alors, Nantes, Nice.
Juste sur la dynamique brestoise, ton avis, Flo, et ensuite on va écouter Eric Croix qui était tout à l'heure l'invité d'RMC et qui a parlé d'un autre sujet.
En fait, ce qui est intéressant, c'est que je pense que les débats sur l'arbitrage, là, justement, ont aussi effectivement occulté ça, ce qu'on avait dit il y a déjà 2-3 matchs. Enfin, moi, j'avais tenu ce discours-là, c'est-à-dire que derrière la polémique et le sentiment d'injustice qui était légitime, sans doute, il y avait autre chose, il y avait de la fatigue, il y avait effectivement une forme de glissement, on sentait qu'ils étaient moins forts, et un changement de système. Et Roy l'a assez bien expliqué d'ailleurs, ils s'en sont sortis parfois quand même, mais qui fait de Brest une équipe beaucoup moins solide. Ils ont pris 13 buts sur les derniers matchs. Alors évidemment, il y a eu 0-0 sur le dernier, mais avant, ils en avaient déjà pris 3 contre Metz, ils en ont pris 5 contre Lyon, ils en ont pris 4 contre Rennes.
4 contre Lyon.
4 contre Lyon. Ouais. Ouais. Et donc, si tu veux, ça, c'était
pas.
Ils
en avaient pris 2 contre Monaco.
C'est 2 contre Monaco, donc c'était pas Brest, ça. Et donc, Roy l'avait expliqué, il avait dit on s'en sort quand même encore avec ce nouveau système, mais il faut accepter de prendre des buts et que ce soit un peu plus compliqué, sauf que c'est un système qui, en termes d'énergie, c'était terrible. Quand ils sont allés, le match contre Lyon, il a fait du mal dans les têtes, mais il a été terrible en termes d'énergie. Même le match à Rennes, la victoire, elle a été dingue en termes de fatigue. Et donc, en fait, le changement de système qui a fait que Brest a pris beaucoup plus de buts est une des explications.
Tu rajoutes la sortie prématurée de Lesmelou et de Del Castillo.
Ah non, mais dans ce match-là, ce match-là, je mets à part pour ça. Ouais. Parce que je pense que
Del
la fatigue.
Qui sort à la 40e,
la fatigue a atteint des sommets là, pour Brest. Et en plus, effectivement, ça touche des titulaires qui fait que maintenant l'équipe est moins forte sans eux, c'est évident. Mais même depuis plusieurs matchs, je pense qu'en dehors des problèmes d'arbitrage, Brest est moins fort. Et que et l'histoire de la fin de ce championnat, c'est sans doute que Lille, qui a une meilleure dynamique, un meilleur banc, enfin, un banc. Plus costaud. Et c'est sûr que pour moi, la dynamique est lilloise. Mmh. C'est évident. Ce qui n'enlève rien du tout à ce qu'a fait Brest et ce que continue de faire Brest. Parce que hier, si là où Comboiré était très bon tactiquement, c'est que lui s'est dit, il est quand même arrivé en disant moi, je mets le bus. Je vais et on va les emmerder en contre. Et franchement, il y avait moyen de taper effectivement ce Brest-là hier. C'est vrai que c'était
terrible. Le sens de l'histoire voudrait que quand même. Brest soit quatrième sur la saison.
Ouais, tout à fait.
C'est la pire place pour eux, évidemment.
Bah oui, ouais, bien sûr. Malheureusement, c'est la pire place pour eux, mais d'avoir Lille, Monaco et le Paris Saint-Germain aux 3 premières places et Brest quatrième. Alors, je souhaite aux Brestois qu'ils soient sur le podium. Mais il y aurait quand même une forme, pas forcément de logique sur la saison, mais par rapport aux qualités intrinsèques, ça resterait quand même logique.
Si, quand même une logique aussi, parce que justement, l'intérêt d'un championnat, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, t'es à la place, entre guillemets, que tu mérites d'avoir. On va parler de Rennes tout à l'heure. Je veux dire, tu vois, ils visaient les 4 premiers, ils ont pas le niveau d'être dans les 4 premiers.
Et puis,
déjà, d'être dans les 4 premiers, ça veut dire que Brest a le niveau d'être dans les 4 premiers, ce qui est énorme.
S'il finit très bien contre Lyon, Nantes et Nice, ils mériteront leur 3e place, hein.
Écoutez, Eric Roy, il était sur RMC cet après-midi. Il a répondu à ceux qui estiment que ce serait pas une bonne nouvelle pour le foot français de voir Brest en Ligue des Champions. Je comprends même pas qu'on puisse poser la question de mon côté, mais enfin bon. Réponse d'Eric Roy.
Ça m'attriste en fait un peu parce que j'ai l'impression que si on est là, c'est que je pense qu'on l'a mérité. Et puis après, quand les gens disent oui, mais c'est un championnat fait parce que les autres sont pas au rendez-vous, c'est pas notre problème en fait. Si les autres sont pas au rendez-vous, c'est plutôt leur problème à eux. Donc oui, c'est un peu décevant, c'est un peu triste, mais en même temps, c'est la réalité.
Bon, je te dis un truc.
C'est vrai qu'il y en a qui préféraient qu'il y ait des grands clubs avec des grands stades.
À la limite.
Bon. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus.
Après, c'est les goûts et les couleurs. Et encore une fois, il y a les débats pour la santé de la Ligue 1, etc. Mais moi, ça, je m'en fous. Sincèrement, Gilbert, j'ai pris beaucoup de plaisir en regardant Brest. Ceux qui veulent pas voir Brest,
ils le méritent parce qu'ils sont là, c'est tout.
Non, mais ceux qui n'ont pas vu Brest cette saison, encore une fois, et ceux qui n'ont pas vu que cette équipe-là, elle proposait un football alléchant. Quand on voit que tous les gros matchs de notre Ligue 1 cette saison sont avec Brest, hein, que ce soit Brest-Lens en début de saison, le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain-Brest aller au retour, c'était deux très très grands matchs. Le Brest, le Lyon-Brest,
le Rennes-Brest,
le Rennes-Brest, le Brest-Metz. À chaque fois.
Brest-Marseille.
Voilà, à chaque voilà Brest-Marseille 1-0 à chaque fois qu'on était dans des gros matchs avec Brest, on a souvent eu des très très beaux matchs de football. Voilà, aujourd'hui comme vient de le dire Eric Roy, c'est pas de leur faute si Marseille a mal travaillé, si Rennes a mal travaillé, si Lyon était 18e à la 10e journée.
On rassure Eric Roy, voilà. Brest mérite d'être en Ligue des Champions.
Bien évidemment qu'il mérite en Ligue des Champions. Après 3e ou 4e, c'est autre chose. Tout dépendra de ce que fera Lille sur la fin de saison. Mais oui, bien évidemment qu'il le mérite.
Dans un instant, on continue le débat sur les places européennes. On dira un mot de Monaco, de Rennes. Et puis ensuite, on passera au maintien. Et puis tiens, si on a le temps d'ici minuit avant le débat Mbappé, j'aimerais quand même qu'on parle un peu du trophée UEFA. On n'a pas eu le temps de le faire. On a eu la liste des nominés la semaine dernière. Bon, évidemment, c'est comme tous les ans, c'est la dinguerie absolue. Et on rentrera un peu dans les détails. J'espère qu'on aura le temps. À tout de suite.